Chloé Buir, bonjour.
Bonjour.
Jusqu'où peut aller la perestroïka en Angola?
C'est une grande question. Je crois qu'on est encore dans le moment de la surprise. Tous les signes d'ouverture qui ont été salués, etc., on doit continuer à les saluer, mais il y a aussi des signes plus conformes à ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y a des jeunes manifestants qui sont encore en prison pour avoir dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait lors d'une visite officielle à Malange. Il y a eu quand même quelques sursauts autour de la personne de Raphaël Marx, le journaliste qui reçoit des prix à l'international, mais qui est toujours vilipendé sur la scène locale. Donc c'est un processus qui prendra sans doute du temps et qui nous réserve sans doute encore pas mal de surprises.
Les faits marquants depuis 9 mois, ce sont le limogeage d'Isabelle et l'inculpation de José Filomeno. Et le clan Dos Santos doit être aux abois, non?
Oui, alors le dernier événement, c'est donc vendredi dernier, la réunion du comité général du MPLA, donc qui a annoncé la tenue d'une nouvelle réunion en septembre, où José Eduardo Dos Santos devrait effectivement quitter la présidence du parti. Donc le climat est à la fin de règne. On a encore beaucoup de questions pour savoir jusqu'où peuvent aller ces poursuites contre son fils Zenou.
José Filomeno, oui.
Le destin, à la fois, au niveau du business, et puis le destin politique de sa fille Isabelle. Il y a aussi une des lois qui est le plus débattue en ce moment en Angola, c'est la question sur le rapatriement des capitaux, sur le fait que, bon, en gros, tout l'argent qui a quitté l'Angola peut revenir en Angola, on fermera les yeux. Donc le clan Dos Santos, c'est pas seulement les enfants en direct, hein, c'est aussi les alliés, sont directement concernés par cette loi, par exemple. Donc comment elle sera appliquée? Ça reste un des grands points d'interrogation pour les mois à venir en Angola.
Il y a donc des avancées dans la lutte contre la corruption, mais pas encore d'ouverture politique?
Je pense que des signes d'ouverture politique, il y en a vraiment. On a vu ces dernières semaines des manifestations autorisées à Luanda. Du coup, plus les manifestations seront autorisées, plus les gens auront le courage de se joindre. Donc je dirais que la société civile, elle est clairement renforcée depuis l'arrivée de Lorenzo. Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, pour l'instant, on n'a pas encore vu d'application de ces lois. Il n'y a pas eu de condamnation. Donc oui, il y a des poursuites en justice, il y a des déclarations. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une politique efficace? Je ne sais pas.
La visite officielle du président angolais ce lundi à Paris, c'est un tournant diplomatique ou pas?
Un des points à l'agenda diplomatique entre la France et l'Angola a longtemps été la question des visas. C'est quelque chose qui a été résolu il y a plusieurs mois, donc avec la levée des visas obligatoires pour des séjours courts, enfin des séjours de tourisme en Angola. Mais c'est une décision qui n'a pas concerné que la France. Donc je pense que l'Angola peut être en train de renégocier ses relations bilatérale avec la France, mais il faut remettre ça dans le contexte de renégociation générale des relations internationales de l'Angola. Donc ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on attend de voir nous, chercheurs, sur l'Angola, c'est est-ce qu'on va arriver à plus de transparence et donc à une meilleure vue d'ensemble. Pour l'instant, l'Angola, ça reste un pays qu'on observe par petites fenêtres qui ne se rejoignent pas toutes, donc on a du mal à avoir une perspective globale de l'Angola.
Il y a perestroïka, mais il n'y a pas glasnost.
Je vous laisserai sur ces métaphores. Non, je pense que voilà, on est dans un contexte très différent. Le monde n'est plus du tout aussi binarisé et en tout cas pas autour des mêmes pôles à l'heure actuelle que ce que ça peut être dans les années 80 ou 90. Donc il faut être ouvert à toutes les interprétations.
Alors à l'occasion de cette visite à Paris, Emmanuel Macron a l'intention de demander à son hôte angolais de faire pression sur le Congolais Joseph Kabila afin qu'il respecte la Constitution et qu'il s'en aille du pouvoir à la fin de cette année. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait un bon calcul ou pas?
En remettant la balle dans le camp des Africains, là-dessus, il tient bien sa ligne. Après, est-ce que Lorenzo est en position de le faire? Est-ce qu'il a envie de le faire? C'est très délicat. On est à un moment où le Congo et Kabila se cherchent un dauphin. Mais il faut voir aussi à l'échelle régionale. Alors, c'est pas seulement l'Angola et le Congo. Les changements qu'on a vus à la tête de l'État sud-africain ou zimbabwéen montrent qu'il n'y a pas de discours de pression qui puisse émaner directement de l'Angola sur le Congo. Je pense qu'on est dans des configurations qui sont un peu plus larges.
Pensez-vous que ce n'est pas Lorenzo seul, mais un trio Lorenzo Ramaphosa Kagame qui peut faire pression sur Kinshasa?
Oui, je pense que ça rentre dans l'échiquier. Voilà, entre les dynamiques intérieures au Congo, ce qui peut provenir des voisins et puis ce qui peut provenir de la communauté internationale en général, si on veut inclure Macron par exemple dans l'équation, difficile de déterminer qui sera dominant, qui aura le fin mot de l'histoire.
En venant à Paris, João Lourenço veut diversifier son économie, mais c'est un discours qu'on entend depuis des années et ça n'avance pas.
Oui, alors ça c'est clair qu'on l'entend depuis des années. C'est quand même un discours qui se généralise et puis surtout il y a une urgence qui est tout autre à l'heure actuelle que ce qu'elle pouvait être avant le crash pétrolier de 2014.
Au moment où l'État angolais a du mal à payer ses fonctionnaires, vous pensez que la sortie du tout pétrole est une nécessité ?
Elle est une nécessité, elle est surtout c'est une question de survie. C'est comme si la question de la survie de l'État, du système de l'État angolais, s'est tout d'un coup rapprochée de la survie du peuple angolais. C'est-à-dire que ça a toujours été une question de survie pour les Angolais, mais pour une partie de l'oligarchie, voilà, on pouvait faire fi de cet enjeu de diversification. Maintenant, l'urgence est plus partagée, donc on peut espérer que ça mène à d'autres situations. Après, la France en Angola, depuis toujours, c'est Total. Donc est-ce que c'est via le partenaire Total qu'on fait de la diversification? Il va y avoir quand même des questions aussi de trouver de nouveaux interlocuteurs. Pas seulement s'adresser à de nouveaux pays, mais aussi à l'intérieur de ces pays qui deviennent les interlocuteurs du développement économique et des partenariats économiques.
Chloé Buir, merci.